Mais oui, merci Julie. Bien sûr, tout cela est évidemment étonnant. Ça a étonné tout le monde et ça a étonné les magistrats que j'ai vus là. Sourire, s'étonner de certains résultats. C'est étonnant et donc c'est très intéressant, monsieur Lès, parce que le juge a toujours avantage pour bien juger, pour tendre vers le juge impartial rêvé ou en tout cas souhaité par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge impartial, le juge indépendant. Ce juge a toujours avantage à connaître, notamment, vous parliez de sensibilisation, oui, bien sûr, notamment, grâce à la psychologie et à toutes ces expériences, ces stéréotypes inconscients, ces idées préconçues, et pour rejoindre le titre de la conférence qui se trouve là sur la porte, ces émotions, ces sentiments. Vous savez, moi je pense, de manière un petit peu plus générale, que la procédure pénale a de tout temps conscience qu'il faut se méfier des sentiments exprimés, ou en tout cas trop violemment exprimés, trop fortement exprimés par les parties, que ce soit le suspect, que ce soit la victime, que ce soit par l'opinion publique. La procédure pénale a, je pense, aussi conscience qu'il faut se garder des sentiments ressenti par le juge et de ses préjugés. Alors je pense qu'on n'a pas attendu la psychologie pour nous le dire, mais je pense qu'on nous le dit, qu'on se le dit fort mal, et que vous venez très opportunément à notre aide. Ce type de sentiment excessivement exprimé, excessivement ressenti, je crois que le législateur, depuis toujours en procédure pénale, a conscience qu'il submergerait à coup sûr la vérité, la recherche de la vérité d'abord, et ensuite l'équité du jugement, l'équilibre de la peine si une peine est prononcée. Donc, c'est dans cet ordre d'idées, sans refaire mon cours de procédure pénale, mais chacun s'en de même, c'est dans cet ordre d'idées que la procédure pénale instaure toute une série de règles qui sont fort anciennes, toute une série de précautions élémentaires, mais qui sont indispensables. Je pense notamment, et sans vouloir être exhaustif, au fait que dans un système de justice démocratique, la justice n'est pas rendue par les parties, qui sont souvent survoltées au moment même des faits. Elle n'est pas rendue par la victime, elle n'est pas rendue par sa famille, elle n'est pas rendue par des citoyens, en tout cas pas par des citoyens laissés à eux-mêmes, elle est rendue par un juge à distance, un juge indépendant, un juge impartial, pour reprendre l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Autre règle, dans le même sens, les parties sont encouragées, et dans certains cas, elles sont obligées à se faire représenter, au moins assister par un professionnel du droit. Membre d'un parquet représentant les citoyens, membre d'un barreau représentant ou assistant, en tout cas, le suspect et la victime. J'ai pensé à une règle de droit tout à l'heure en vous écoutant. Le juge peut, dans certains cas, obliger quelqu'un à faire choix d'un conseil. Et à dire, je ne vous écoute pas. Vous avez normalement le droit de venir sans avocat, mais dans ce cas-ci, j'estime que vos sentiments vous submergent. Ne le dis pas comme ça. Vos émotions vous submergent. Je ne vous comprends pas. Vous vous défendez mal. Et je vous oblige à prendre un avocat. Autre règle encore, la phase de jugement est nécessairement précédée d'une phase d'enquête, en procédure pénale en tout cas, pas en procédure civile. Cette enquête est placée sous la responsabilité d'un magistrat qui ne peut en aucun cas être le magistrat du fond, le magistrat qui jugera. De plus, l'organisation de cette enquête fait qu'un certain temps va s'écouler entre les faits eux-mêmes et leur jugement par un juge tiers. Encore un exemple, la loi organise une procédure précise de récusation du juge que l'on pourrait soupçonner de se laisser guider par ses sentiments de tout ordre. Animosité pour une partie, amitié, sympathie, idée préconçue. Vous en avez parlé, exprimée, parenté, que sais-je encore. Et dernier exemple, la loi et la pratique organisent enfin la géographie de la salle d'audience. Chaque partie a sa places bien distinctes. Le moment est réglé où chaque partie pourra prendre la parole dans des formes très convenues. Donc je pense que la procédure pénale a bien conscience qu'il faut se méfier des sentiments, en tout cas des sentiments trop violemment exprimés par les parties ou par le juge, exprimés ou ressentis par les parties ou par le juge, et que la procédure pénale a toujours voulu organiser une série de procédures qui viennent mettre de la distance personnelle, de la distance temporelle, de la distance sentimentale, de la distance, la salle d'audience, géographique même. Tout cela est nécessaire, pense-t-on, pour permettre au juge de statuer et d'éventuellement de condamner dans la sérénité, à l'abri des sentiments immédiats, trop violemment exprimés, et cette violence sentimentale ne pourrait que brouiller le juge. Ça, c'est incontestable. Mais ça, je pense que la loi en a conscience depuis toujours. Alors, si la procédure pénale se méfie des sentiments qui brouillent le travail du juge, brièvement, posons-nous deux questions. Je vous pose deux questions. Je profite de votre présence pour vous poser deux questions. Première question, je vais tenter d'y répondre aussi. La procédure de jugement se désintéresse-t-elle totalement des sentiments? Vous avez donné l'exemple extrême du Japon. Notre procédure pénale se désintéresse-t-elle totalement des sentiments? Et deuxième question, la loi atteint-elle son but de bannir les sentiments, en tout cas les sentiments violents qui brouillent le travail du juge? Première question. La réponse, donc la procédure de jugement se désintéresse-t-elle des sentiments? La réponse est incontestablement non. Au Japon peut-être, chez nous certainement pas. Et à divers titres, l'audience correctionnelle, l'audience de jugement, par le rapport d'audience, on va résumer le dossier avant d'entendre les parties, par les plaidoiries, par le réquisitoire, par l'interrogatoire du suspect, voire par l'interrogatoire de la victime elle-même qui peut être présente et parler, eh bien, cette audience correctionnelle va rappeler les faits qui sont évidemment en droit pénal très souvent chargés d'une grande émotion, d'une grande douleur, d'une grande passion. Les avocats, le procureur du roi, rappelleront ces émotions. L'infraction cause de la douleur, elle sera rappelée. Le juge s'attend à ce qu'on la rappelle, serait étonné qu'on ne l'évoque pas. La peine en causera dans le chef de l'auteur de l'infraction, dans le chef de sa famille. L'avocat en parlera de cette peine et de ses émotions. Le juge serait très étonné qu'on n'en parle pas, qu'on ne l'évoque pas. Les avocats et le procureur du roi diront cette douleur, mais je pense qu'ils le diront, ils la diront de manière ordonnée, dans les formes prévues par le code dont je viens de parler. La procédure de jugement ne masque donc pas les sentiments. La loi pénale, au-delà de l'audience, la loi pénale elle-même en tient compte, officiellement, légalement, de ses sentiments, de ses passions. Le sentiment de l'auteur au moment de l'infraction est important, ses intentions sont importantes, elles constituent bien souvent, une infraction sur quatre, un élément constitutif de cette infraction. L'intention particulière, le dol spécial, pour reprendre le jargon juridique, le dol spécial est l'analyse du sentiment, de la détermination de l'auteur, de l'intention particulière de l'auteur. Ces sentiments, ces passions, sont invoqués souvent à des charges au titre de cause de justification, force majeure, force irrésistible. Et si les sentiments de l'auteur après les faits sont quotidiennement cités par le juge pour justifier la nature et la hauteur de la peine, c'est aussi qu'à ce niveau-là, ils ont de l'importance. Le juge, bien souvent dans son jugement, parlera des excuses présentées, de l'amende honorable, parlera des regrets, de l'empathie, du remboursement, de l'indemnisation. Mais dans tous les cas, l'expression de ces sentiments se fera une fois de plus à l'audience, de manière le plus souvent organisée, policée, médiatisée par l'intermédiaire d'avocats, minutée. Donc, à l'audience, les sentiments sont présents, mais ils sont pas violemment exprimés. Ils sont décrits, ils sont analysés, ils sont organisés par la procédure qui se méfie, et ça c'est vrai, il faut s'en méfier, des débordements que ces sentiments peuvent entraîner. Donc, à ma première question, je dirais que la procédure du jugement ne se désintéresse certainement pas des sentiments, mais que le juge compte qu'on les lui décrive de manière ordonnée. Alors, pour en finir, ma seconde question, et c'est là évidemment que votre propos m'a particulièrement intéressé, ma seconde question, la loi aboutit-elle à ses fins, bannir les sentiments qui brouillent le travail du juge? La réponse est pas entièrement. Pas entièrement parce que les précautions procédurales dont j'ai parlé ne suffisent manifestement pas, et ce que nous venons d'entendre doit à ce titre nous intéresser. Le juge possède des idées préconçues, des stéréotypes culturels, sociaux, vous nous avez parlé de certains d'entre eux, qui l'influenceraient inconsciemment, mais très clairement, lors de son jugement. Je pense pour ma part que ce phénomène, du moins lorsqu'il existe chez un juge de manière raisonnable, n'est pas dirimant. Mais je pense que le processus d'apprentissage, que le processus de nomination, que le processus de formation permanente du juge doit en tenir compte et permettre au juge d'identifier ses idées préconçues, d'identifier ses stéréotypes culturels, ses stéréotypes sociaux, pour les écarter le plus possible. Je pense que l'idée éthérée d'un juge qui serait parfaitement impartial, dépourvu de tout préjugé, fût-il inconscient, est une idée irréaliste. Le justiciable n'est pas dupe. Je pense en plus que le justiciable n'est pas dupe. Il sait que son juge est le fruit de son éducation sociale, de son éducation familiale, de son éducation scolaire, qu'il a en privé ses opinions morales et religieuses personnelles, qu'il a des sentiments, des émotions, de la sensibilité, mais il attend, le justiciable, qu'une fois arrivé à l'audience, le juge sache le mieux possible, identifier ses stéréotypes et ses idées préconçues pour s'en départir, voire pour s'en méfier. Presque terminé, mais il faut donc, je pense, dans la formation professionnelle du juge et dans sa formation permanente, puisqu'elle existe actuellement, un organisme existe à ce propos, il faut encourager les enseignements visant à débusquer, à expliquer les stéréotypes culturels ou sociaux dont vous venez de nous parler, les idées préconçues. Et dernière petite chose, cela pourrait peut-être vous intéresser, j'ai à ce titre passé en revue les différents modules de formation des futurs magistrats et la formation permanente des magistrats organisée, toutes ces formations, par l'Institut de formation des magistrats qui contrôle la formation des futurs magistrats, la formation permanente des magistrats. J'ai constaté qu'actuellement, signe des temps peut-être, l'accent était actuellement mis sur la technique juridique, fort bien, sur le management, sur la gestion de son temps, de son stress, sur la communication, fort bien aussi, mais beaucoup moins qu'avant sur les notions de psychologie et de sociologie nécessaires à combattre les stéréotypes culturels, sociaux, dont vous venez de nous parler, à combattre les idées préconçues, inconscientes du juge. Pas de formation de nature psychologique qui irait en ce sens. Elles existaient précédemment, notamment pour chasser, il y a une dizaine d'années, les stéréotypes culturels. Point positif, toutefois, en ce sens, la création de IACOS, qui est un nouveau programme d'échange européen de juges et de stagiaires judiciaires. Ce programme a permis en 2014 à 38 stagiaires judiciaires belges qui vont devenir magistrats de se déplacer à l'étranger d'y découvrir d'autres systèmes juridiques et d'y découvrir d'autres systèmes sociaux et culturels, mais je crois que cette découverte est limitée parce qu'elle est essentiellement européenne. L'objectif de la Commission européenne est d'ailleurs d'étendre ce système d'échange à tous les stagiaires judiciaires, donc à tous les futurs magistrats, et non plus à une trentaine d'entre eux belges actuellement, à tous les stagiaires judiciaires européens d'ici une dizaine d'années. Ça, je pense que c'est un point positif, la rencontre des autres systèmes juridiques et des autres cultures. Je relève par ailleurs que dans le même ordre d'idées, le Conseil supérieur de la justice, qui est cet organisme qui, je vais vite en disant, nomme, qui présente à la nomination les stagiaires judiciaires après examen, les futurs magistrats après examen, que ce Conseil supérieur de la justice qui nomme donc les futurs magistrats et les magistrats, paraît aujourd'hui conscient qu'une bonne justice ne dépend pas simplement du bagage théorique, juridique du magistrat, puisque le Conseil supérieur de la justice s'intéresse depuis peu à la psychologie. Alors comment s'y intéresse-t-elle, avec quelle arme? Mais elle s'y intéresse à la psychologie des candidats stagiaires et des futurs magistrats. J'avais, je pense, le programme publié au Moniteur belge, et parmi les épreuves que l'on fait subir aux stagiaires judiciaires, de jeunes diplômés, ou aux futurs magistrats, de moins jeunes diplômés, il y a, à côté des connaissances juridiques, des tests psychologiques. Un test cognitif analytique qui pourra être organisé pour tous les participants, un questionnaire de personnalité qui pourra être organisé pour les lauréats de la partie écrite. Et je trouve que c'est intéressant, en tout cas, une première démarche intéressante, de se dire qu'un bon magistrat n'est pas simplement un théoricien, et qu'on peut s'intéresser aussi à la dimension psychologique, aux idées préconçues de ce magistrat, par exemple. Par contre, et ça je viens de vous l'expliquer, la formation des stagiaires judiciaires, la formation des magistrats, la formation permanente des magistrats, n'est pas à la hauteur dans le domaine très important que vous nous avez décrit. Voilà.